RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, c'est un tournoi plein d'incertitudes qui débutera ce samedi à Rome pour l'équipe de France. Des bleus que leurs adversaires considèrent comme les favoris du tournoi. Alors, flagornerie ou sentiment véritable, on entre en mêlée dans un instant. Un tournoi qui débute certes, mais dont on ne sait pas s'il pourra aller à son terme. Les conditions sanitaires sont draconiennes. 31 joueurs, pas un de plus, et des bleus entamés physiquement. La période de grâce de Galtier peut-elle se poursuivre dans ces conditions? Là aussi, on en débat. Heureusement, le premier adversaire des Bleus se nomme Squadra Azzurra, une équipe qui n'a plus gagné depuis 6 ans. Pierre Amiche est penché avec malice et un brin de méchanceté, c'est sa marque de fabrique sur les stats italiennes. Enfin, il se prénomme Nathanael, était jusqu'à ce samedi un parfait inconnu. Son entrée en jeu avec l'UBB contre Clermont l'a révélé au grand public. Hulle, c'est son nom, et notre frelon de la semaine. Pour analyser, disséquer, s'écharper, ils sont venus, ils sont tous là, voici les poteaux. Denis Charvet, bonjour Denis.
Bonjour monsieur.
Manu Massicard, salut Manu.
Salut messieurs.
Et Wilfried Templier qui est là lui
aussi. Salut les hommes.
Salut les garçons. Comme tous les ans, début février, voici donc venu le temps du tournoi, cette Madeleine qui nous régale mais qui cette année est pleine de grumeaux.
L'action, plier, jeu.
Et oui, parce que ce tournoi, comme toutes les autres compétitions, est évidemment sous la menace du Covid. Alors, on est déjà bien content qu'il puisse débuter. Reste maintenant à savoir s'il pourra s'achever en temps et en heure. Les Français, eux, sont dans leur bulle niçoise depuis une dizaine de jours. Ils rejoindront Rome en fin de semaine. Pour l'instant, en termes de virus, tout va bien, Wilfried. En revanche, les corps sont fatigués, les forfaits se multiplient plus vite encore que le variant anglais, hein.
Ouais, les corps sont un peu plus fatigués que l'an passé. C'est le préparateur physique Thibaut Giroud qui l'a avoué la semaine dernière lors d'une conférence de presse en visio. Des états de forme assez disparates, il disait. Et au niveau des blessés, tu l'as dit, c'est la même chose. Beaucoup plus de casse que lors du dernier tournoi destination. Forfait de Bamba, Ntamack, Vakatawa, Kroos, Antonio, Cha, Kouyou, Paiva récemment. Ça fait quand même, on va dire, 4-5 titulaires. En plus, si on considère que Cha est important hein, dans la rotation avec le punch qu'il amène lors de son entrée. On verra si ça amoindrit le potentiel des Bleus. On a quand même perdu quelques forces vives, même si on en a d'autres. Au niveau des règles sanitaires, Christophe, ça vous surprendra pas, la bulle autour des Bleus est très stricte. On vous passe les détails hein, jusqu'aux employés de l'hôtel qui sont testés. On précise, c'est la bonne nouvelle, que pour leur troisième test Covid en une semaine, les joueurs sont tous négatifs. Et c'est important parce que il y a eu l'épisode du match Agen-Toulouse la semaine dernière, auquel ont tout de même participé Bay, Marchand, Aldeguerri et Dupont. Mais tout ce contexte a obligé la FFR à revoir ses plans, en fait. Vous vous souvenez que Fabien Galtier voulait absolument 42 joueurs pour préparer les matchs. Il en avait obtenu 37 plus 5 partenaires. Il était prévu que lorsqu'il y avait du top 14, 9 joueurs soient libérés pour rentrer et jouer en club. Et surtout, qu'ils reviennent ensuite. On oublie tout ça. Nouvel avenant. C'est finalement un groupe de 31 qui est retenu pour ce tournoi. Écoutez les explications de l'entraîneur adjoint Laurent Labitte.
Notre problématique, elle est que effectivement, de la façon dont on avait décidé et choisi de travailler avec les joueurs, on avait 37 joueurs, ça impose des allers-retours des joueurs dans les clubs et on veut minimiser le maximum les risques de la bulle sanitaire pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions le tournoi destination, mais également aussi protéger les joueurs et les clubs aussi qui ont depuis maintenant de nombreux mois des difficultés avec ça, avec ceci à gérer. Donc c'est difficile et on veut une fois de plus essayer de minimiser. Donc effectivement, on puisse avoir un groupe de joueurs que l'on conserve pour éviter de faire ces allers-retours et de prendre des risques dans une situation qui est compliquée.
Pas de risque, voilà Christophe.
Ouais. Alors avec une telle succession de forfaits, de blessures diverses, difficile évidemment de dégager une équipe type. Est-ce qu'on a une idée, Wilfried, du 15 de départ qui devrait aligner Galtier samedi prochain?
Ouais, alors une idée, on imagine qu'on va peut-être toucher le moins possible au titulaire présent, le titulaire habituel, donc première ligne, Bay, Marchand, Awas. Normalement, deuxième ligne, Leroux, William C, même si on a beaucoup vu Baptiste Pesenti sur les vidéos d'entraînement des Bleus. En troisième ligne, c'est peut-être là où il y a le plus d'interrogations en troisième ligne, hein. Olivon sera là, normalement, le capitaine, hein, mais bon, il s'est remis d'une commotion après avec son match de Toulon. Mais est-ce que Grégory Aldrit, qui les a rejoints récemment à Nice, reprendra sa place? Vous savez, il avait un souci au genou. Est-ce qu'on lance Jelonche en 8? Et en l'absence de Kroos, la place se joue entre Woki et Cretin. Avec la grosse cote, c'est Woki, évidemment. La charnière, Dupont-Jalibert. Au centre, Ficou et Arthur Vincent. Aux ailes, on en est au même endroit que la semaine dernière. On faisait une sélection la semaine dernière. Messieurs, Penaud sera à droite. Et il y a une place à jouer entre Villiers et Thomas à gauche. Une pièce peut-être sur Villiers. Et enfin, Dulin à l'arrière.
Bon, Denis, elle te séduit cette équipe. C'est pas l'équipe qu'on espérait, évidemment.
Enfin, on me dit l'équipe type. Est-ce qu'il y a une équipe type maintenant? Il y a des joueurs irremplaçables. Vakatawa est un joueur irremplaçable pour moi.
Celui qui fera. C'est la plus grosse absence à ton avis de.
Ah oui. Mais pour moi, c'est un des meilleurs centres au monde aujourd'hui. Donc, quand
plus
tu enlèves.
Plus que Ntamack.
Oui, parce que Jalibert a tellement prouvé de ces derniers temps qu'il était à la hauteur et qu'il pouvait rivaliser avec à ce poste avec Ntamack, mais après ils ont pas le même profil de joueur. Jalibert, on le sait, est plus porté vers l'offensive que Romain qui a peut-être plus d'expérience, plus de jugeote à ce poste-là, mais je crois que
plus froid, ouais,
je crois que le point noir c'est quand même Wakatawa, ouais.
parce que Ntamack est un vrai remplaçant, une vraie alternative avec Jalibert,
avec
alors
un genre
que
de très haut niveau.
Wakatawa, c'est un peu moins ça, Manu.
Ouais, je suis embêté par l'absence de Wakatawa qui va peser quand même certainement très très lourd au centre. Même si il y a du potentiel derrière. Wakatawa, c'était quand même le papa, le régulateur, et je suis pas trop d'accord avec Denis. Oui, certes, il y a des joueurs incontournables. Il y avait aussi une équipe type qui s'était dégagée depuis quelques matchs. Et là, c'est la première fois où elle est en dehors de la Coupe d'automne, de la Coupe Mickey. C'est la première fois où elle est véritablement casser cette équipe type. Et ce déplacement en Italie, on en parlera tout à l'heure, bah il sera pas drôle, tout simplement.
Ouais. Pas drôle du tout.
Après, sérieusement, devant, on a les moyens de. Ouais. On a pratiquement que des titulaires. Enfin,
Alors, la troisième ligne, justement, parce que ce matin, dans le Midi Olympique du jour, Manu, Olivier Mann s'interrogeait sur la pertinence d'aligner le capitaine Charles Olivon, qui n'est pas en grande forme actuellement, qui a effectivement été victime d'une commotion. Est-ce que c'est une question que le 15 de France peut se poser, ou c'est uniquement les anciens qui se posent cette question?
Je pense que c'est une question pour les anciens. Ouais. Aujourd'hui, Olivier Mann, il avait été capitaine contre l'Italie, je crois, une fois en remplacement de Raphaël. C'est jamais facile ces matchs-là. Et moi, je pense que pour débuter le tournoi, quand il te manque Ntamack, quand il te manque Kroos, quand il te manque Wakatawa, tu ne peux pas passer de ton.
C'est pas le moment.
C'est pas le moment.
Non, mais c'est surprenant sa déclaration, parce que quand on sait l'importance d'un capitaine aujourd'hui, comment d'ailleurs il assume ce rôle-là, Charles Olivon. C'est-à-dire que il donne la confiance à ses partenaires. On le voit depuis six mois, depuis un an, il amène un truc, il a un charisme, il s'est révélé en tant que capitaine. Il est indispensable. Ouais. C'est pour ça que c'est très surprenant.
Le problème du capitaine, c'est que même s'il est moins en forme qu'habituellement, lui, il est, et on peut pas y toucher.
Non, mais il doit jouer. Il a une influence terrible sur le groupe. Il est pour moi incontournable.
Ah, quand t'es au complet, tu peux imaginer que tu lui donnes un petit peu de temps. Mais là, t'es pas au complet. On se pose la question sur la deuxième ligne, Willemc ou Pesenti. On se pose la question en troisième ligne, Aldrit ou notre ami Gelon et Crétin à côté. Jalibert, on y revient. À l'aile, t'as un trou. Au centre, t'as un trou. Mais ça fait beaucoup, quoi.
Et puis quand il dit qu'il est moins en forme. Je comprends pas en plus ses propos.
Si.
Légèrement moins en forme. Après, tu sais très bien que tous les dimanches il faut enchaîner les performances, que t'es pas en équipe de France. Donc
je crois qu'il a quasiment pas marqué d'essai depuis le début de la saison, alors que l'année dernière il était quand même sur un nuage.
C'est pas marqué. C'est pas lui qui marque.
Faut pas les sous-estimer. Mais on commence par l'Italie. On ira en Angleterre, on ira en Irlande. Peut-être qu'on se gratterait un peu plus la tête. Donc
après, pour reprendre ses propos, je suis d'accord avec lui quand il dit je dois jouer. Pour moi, lui, Anthony Gelonge, il a tellement fait de performances enchaînées ces derniers temps. Non, en 7. D'ailleurs, il le dit lui-même, Olivier Mann, il le positionnait en 7, et moi, je suis d'accord. Une troisième ligne, Aldrit,
Olivon
et Gelonge. Et ça me plairait bien.
Ok. Vous êtes d'accord avec cette compo-là, les gars?
Ouais. Bah, faut voir avec la touche aussi, hein, parce que Woki peut être très, très précieux en touche. Il y a ce sujet-là. Comme Crotin, mais voilà, si on a Leroux et Willemc ou Pesenti en deuxième ligne, c'est pas des sauteurs. Donc en troisième ligne, il nous reste Olivon, Aldrit pour le décoller. Voilà.
Ouais, mais là
il y a cet aspect de la touche aussi, messieurs.
Ouais, mais le premier match, il va falloir concasser de l'Italien et leur montrer qu'on est bien présent.
Alors, malgré toutes ces absences, l'équipe de France fait figure de favorite, en tout cas pour ses adversaires, Wilfried, qui sont tous dithyrambiques sur les qualités de cette équipe. Hein.
Ouais, c'était mercredi dernier lors de la traditionnelle journée média de présentation du tournoi. Alors d'habitude, tout le monde se rend à Londres, hein, on a le droit aux photos, vous vous souvenez des capitaines en maillot autour du trophée. Bah là, c'est tout le monde devant sa caméra et ses écrans, la visioconférence et le nouveau monde. Quelle tristesse d'ailleurs. Enfin, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. En effet, tu l'as dit, on a dit du bien du 15 de France, ça a commencé avec notre ami Eddie Jones, écoutez-le.
La France a un groupe et un effectif très stable depuis plusieurs mois. L'équipe que nous avons affrontée il y a quelque temps est assez similaire à celle de cette année. Ils ont un plan de jeu vraiment intelligent.
Et il a même ajouté, ce qui est super pour nous, c'est que tout le monde aime la France. On sait que vous, les médias, vous les aimez, donc continuez comme ça, continuez à leur dire à quel point ils sont forts, avec son petit sourire en coin habituel. Et visiblement, il n'est pas le seul à nous aimer. Écoutez, Wayne Pivac, le sélectionneur gallois.
Ils ont des joueurs de classe mondiale. Ils ont un coach et un staff très efficaces. Avec l'organisation de la Coupe du Monde 2023 en France, c'est encore plus excitant de les jouer. Et pour les fans français, c'est encore mieux. On se doit de respecter cette équipe.
Voilà, ça y est, on a gagné le tournoi. Je sais même pas à quoi ça sert de jouer. Nos adversaires le pensent en tout cas.
On a bien compris qu'ils nous prenaient pour des jambons.
Non,
amis,
pas vraiment. Je pense qu'on a gagné. Du respect quand même, il me semble. Moi, sur les derniers matchs, l'équipe de France fait peur. C'est normal.
Donc ils ont. Tu sens que Eddie Jones.
Eddie Jones tremble pas. Bah, c'est un filou, un talonneur. C'est toujours un filou, mais après. Il y a quand même des choses que tu vois et qui ne passent pas inaperçues sur les prestations des Français. Donc oui, il va faire
même
attention
si,
quand
Denis,
même.
Même si Laurent Labitte cette semaine a dit quand on lui a parlé de ça, il a dit oui mais c'est sympa et tout, mais on n'est pas dupes, il a dit.
Ouais, d'accord.
Voilà, on a un peu d'expérience.
Des Bleus qui ne bénéficieront plus, en tout cas cette année, de l'effet de surprise. C'est vrai que on va les attendre un peu plus au coin du bois, Manu. Hein, l'année dernière, c'était quand même l'équipe qui arrivait, même si elle avait fait une belle Coupe du Monde, mais on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Cette année, attention, hein.
C'est ça, tu commences d'abord par l'Italie où finalement tu avais mal su gérer le déplacement en Écosse l'année dernière parce qu'un excès de confiance. Cette fois, tu t'es pas vu depuis 3 mois, tu reprends en Italie, ça sent pas très très bon quoi, ça sent pas la facilité. Derrière, parce que encore une fois, t'es favori et il va falloir que tu rejoues avec ce statut-là. Et derrière, tu vas en Irlande, aïe. Il va falloir faire très très attention à ce début de tournoi pour assumer ce statut et montrer que cette équipe a progressé.
Oui,
je ne dis pas qu'elle ne peut pas le faire.
Elle le sait déjà.
Ouais, mais elle le savait en Écosse. Ouais,
elle sait toujours beaucoup de choses, l'équipe de France.
Exactement.
Oui, mais l'Écosse, souvenez-vous, vous comparez à une situation qui n'était pas comparable. Il y avait du public d'abord. C'était pas.
Et ben là, il y en a pas.
Et oui, non, mais c'est pas pareil.
Et tu vas t'endormir.
Pour appréhender l'événement, c'est pas la même chose, Manu. Pour appréhender l'événement, tu auras beaucoup moins de pression en Écosse. T'as eu la pression du public, cette arrivée dans le stade. Tu l'as même dit.
Surtout Denis, l'année où on va jouer en Irlande et en Angleterre.
Voilà, donc c'est.
Ouais. Alors là, je prends le contre-pied. Je pense que ça sera des atouts. En revanche, l'Italie sans personne, je suis pas sûr que ça soit un atout.
Tu penses que ça peut avantager les Italiens dans ce stade olympique vide, morne, face à une équipe d'Italie?
Tu leur en promets 60. Tu vas dans un équipe.
Bon, 50 alors.
Oui, mais bien sûr. Mais t'es toujours très bon pronostic avec l'équipe de France. On va ressortir tes stats. Tu le disais, Manu, toi, tu penses que la règle du huis clos, quand même, mis à part ce match face à l'Italie, derrière, elle pourrait être favorable quand même à l'équipe de France. C'est vrai que d'habitude, les années impaires, on se déplace en Irlande et en Angleterre. Ça sera le cas encore. Mais sans public, ça va pas être la même. Hein.
Bah, ça fait moins de bruit. La Viva, le Toucanam, ça sera quand même beaucoup plus supportable. Je me souviens de matchs à la Viva où tu prenais des chandelles par-dessus la gueule pendant tout le match, plus des trombodos. Et en plus, t'avais le public.
Des vagues de bruit.
Mais je trouve que la Viva à Dublin, c'est plus impressionnant que le Twickenham. Tu as raison de le préciser. Et là, sans public, ça remet les choses au niveau.
Bon, eh bien, nous verrons ça. On a le temps encore avant d'évoquer ces déplacements. Le premier match n'est donc pas le plus périlleux, même s'il faut s'en méfier, puisqu'après avoir débuté donc face à l'Angleterre l'an dernier, cette fois-ci, c'est donc en Italie que les Bleus entameront le premier de leurs 5 travaux d'hiver. L'Italie qui ne fait plus peur à grand monde. Et c'est depuis des années maintenant. On voit ça tout de suite et on ouvre la boîte à gifles.
RMC, entre les poteaux, la boîte à gifles.
L'Italie qui fête cette année ses 21 hivers de présence dans le tournoi. 21 tournois, mais beaucoup moins de victoires. Pierre Amiche et son humour corrosif nous rejoint. Salut Pierrot.
Bonjour.
Tu t'es penché avec la méchanceté qui te caractérise sur les statistiques de l'Italie.
Ah bah, il n'y a pas besoin d'être méchant, les stats elles parlent d'elles-mêmes. Cette année c'est la fête, et ouais, c'est la 21e année de présence de l'Italie dans le tournoi. Et après 20 ans, soit à peu près 3 générations sportives, bah, le temps du bilan est venu. Mouillez-vous bien la nuque, hein, parce que c'est pas brillant. En 20 ans et 100 matchs, eh bien l'Italie affiche une constance admirable. 12% de victoires, un chiffre qui culmine même à 6,5% si on enlève les victoires face à l'Écosse, la seule équipe qui a réussi le tour de force d'être encore plus nulle que l'Italie sur une très courte période. Bravo. Depuis l'an 2000, aucune victoire face à l'Angleterre, un succès face à l'Irlande, deux face à la France et le Pays de Galles. Mais ce serait cruel de ne parler que des mauvaises choses. Hein. Parlons aussi du palmarès transalpin. Eh oui, en 20 ans, c'est 15 dernières places et 10 cuillères de bois, encore 5 et tous les titulaires auront la leur. Et clairement, un tournoi réussi, hein, c'est un tournoi où l'Italie ne prend pas 5 grosses roustes. Imaginez la saison d'Agen, multipliez-la par 20, vous voyez à quel point c'est un peu long quand même de prendre rouste sur rouste. Et pourtant, côté italien, on a tout essayé, hein, Johnston, Kirwan, Berbizier, Brunet, Nick Mallet, Connor Oshie, et globalement tout est naze. Faut dire que trouver 5 joueurs majeurs italiens aujourd'hui, c'est à peu près aussi facile que de trouver une licorne dans la forêt de Rambouillet. C'est une vraie quête perpétuelle et qui est rarement couronnée de succès. Alors après cette avalanche de chiffres, on pourrait dire oui, mais l'Italie doit grandir, progresser doucement, faut donner sa chance au produit, gna gna gna. Bon, on a essayé, c'est pas bon, c'est pourri. Le rugby national italien est mort et même la nouvelle génération n'est pas au niveau. Le tournoi destination U20 est une catastrophe. Alors c'est vrai, la France a mis 49 ans pour gagner son premier tournoi, mais les chances de voir l'Italie rester le pensionnaire aussi longtemps semblent impossibles et même assez peu souhaitables pour nous, mais surtout pour eux.
Merci Pierrot, c'est dur, hein. J'espère qu'ils ne nous écoutent pas en Italie parce que tu vas leur casser le moral évidemment.
Ils vont mettre ça dans le vestiaire avant le match.
Ils vont passer le Paris C parle couramment français, fais attention.
Ouais. La photo d'Amiche dans le vestiaire.
Je suis pas inquiet non plus, hein, même s'ils sont hyper motivés. En 20 piges, 12 victoires, on va dire que si. Et par miracle, il gagne 2 matchs dans le tournoi. Ça serait déjà une performance. Ouais, ça serait un exploit magistral.
Est-ce que vous pensez que l'Italie pourrait connaître un destin à la française, justement, comme le disait Pierrot, quasiment 50 ans sans gagner le tournoi et aujourd'hui, la France rivalise avec les grandes nations. Est-ce que vous imaginez un tel destin à l'Italie, Denis?
C'est dans l'avenir?
Ouais.
Non.
Non.
Non, mais il faut être honnête. Après, c'est dans la culture aussi. C'est bien de les avoir mis, de les avoir intégrés au tournoi Destination, qui était les 5 nations au départ. Mais après, c'est sûr qu'ils n'ont pas le vivier, ils n'ont pas les joueurs, ils n'ont pas la culture et c'est compliqué. Je vois pas l'avenir vraiment rose.
Ils n'ont pas les clubs, ils n'ont pas les sous, ouais, ils n'ont pas les joueurs.
Oui,
C'était mieux avant.
Ouais, c'était mieux
en plus avant.
Mais non, mais
c'est une régression incroyable. Non, mais si. Mais avec, t'as parlé des entraîneurs du temps de Berbizier. Enfin, ils ont réussi à nous battre du temps de Berbizier. Ça avait plus de gueule quand même.
Ouais. Oui, mais les stars italiennes étaient tous des Argentins. Quelques
Massimo Giovanelli.
Ils jouent en France aussi. Mais ça manque. Vous dites, y a pas assez d'argent. Mais il faudrait que. Alors, je sais pas. Bon, il y a que c'est la pandémie, là, les fédérations sont en difficulté, mais il faut mettre de l'argent, donner de l'argent à ces fédérations, quoi. Après tout ce qu'on gagne après les Coupes du Monde, choses comme ça, il faut les aider, c'est pas possible. Autrement, ça ressemble à rien, là, toutes ces défaites. Il le disait, Pierre, les matchs à 0 points, non, mais c'est pas grave. Donc, moi, je trouve que c'est dommage parce que vous avez quand même, vous aussi, le souvenir d'une meilleure Italie il y a 15-20 ans.
Et puis, il y a un certain romantisme qui s'en va aujourd'hui.
Ah, puis c'est nos cousins, c'est une équipe latine comme nous. On aimait bien.
Non, mais c'est le défi de World Rugby, d'aider ces pays-là. Mais si tu n'aides pas la Géorgie, si tu n'aides pas l'Italie, si tu n'aides pas la Roumanie, Tonga, Fidji, Samoa, Uruguay, tout ce que tu veux, tu vas continuer à exister à 10 et basta.
Oui, mais World Rugby a fait des choix. Aujourd'hui, si vous regardez l'état du rugby géorgien, il est en bien meilleure forme que le rugby italien. Et si la photographie de l'instant, l'Italie est encore légèrement au-dessus, on l'a vu, ils ont joué les uns contre les autres il y a quelques mois à peine et ça avait été très décevant pour la Géorgie qui avait pris une volée par l'Italie, ce qui veut dire quand même qu'il y a un gros gap entre eux et les meilleures nations européennes. Mais aujourd'hui, à Tbilissi, il y a l'équivalent de Marcoussi avec des terrains d'excellence couverts. En Italie, le rugby est si
on préfère aller à Rome qu'à Tbilissi.
Ah oui, c'est ça. Non, oui.
Voilà, c'est ça
parce qu'on
problème.
Sait que Rome, c'est quand même le déplacement préféré de Denis qui bouffe des pâtes pendant 3 jours. Tu sais que la bouffe georgienne, c'est très très bon, Denis. Ouais. Tu vas être bien là-bas dans quelques années.
Non, mais... même celle de Rome, mais j'y suis pas convié.
Il y a un fait, c'est que aujourd'hui, la Géorgie bénéficie d'un élan, comme l'Italie avait le vent en poupe au début des années 2000. Sauf que les Géorgiens ont transformé les résultats sportifs et ils ont investi dans la formation, ils ont investi dans les structures. En Italie, il n'y a rien.
Ouais,
t'as
ça,
pas de championnat,
problème.
t'as pas de centre d'excellence. Ouais. Et si on veut penser que l'Italie puisse gagner le tournoi dans quelques années, il va falloir que les Italiens mettent cher sur le rugby et qu'on les aide.
Ou qu'ils naturalisent à tour de bras, quoi.
Et est-ce que l'idée aussi de prendre à chaque fois des sélectionneurs anglo-saxons qui n'ont pas
français.
Du tout
ou
non, mais là, en ce moment, c'est surtout des sélectionneurs anglo-saxons. Il y a eu des des sélectionneurs français, les Berbizier, Bonnel et compagnie. Aujourd'hui, tu prends
non,
des...
Non, mais ça sert à rien, dans la mesure où il n'y a
sont
pas...
Pas, ils n'ont pas la culture du rugby
oui,
italien. C'est un
c'est
peu
pas
le
que la culture,
de bagarre
c'est,
aussi.
C'est le niveau, et les joueurs ne sont pas au niveau, tout simplement. Après, ça, on va revenir à l'argent, à l'investissement que ça demande et tout. Je crois qu'on voit, le rugby, pardon, ouais, peut les aider, mais c'est pas non plus...
C'est pas des BD, enfin
c'est pas des mécènes
pas
non
ONG,
plus,
hein.
Tu vois, je veux dire, c'est
ouais,
ça le problème.
C'est pas une ONG, hein,
donc
ils sont
faut
pas
que
là
l'Italie
pour
aussi
se
structure.
Si, je suis pas d'accord avec vous. Si World Rugby met pas un billet sur l'Italie,
mais oui,
pour les aider,
pas tout faire, je veux dire.
Oui, mais pourquoi, et pourquoi plus l'Italie que les Fidji, par exemple?
Ah, je te dis pas plus l'Italie, je te dis avec l'Italie.
Oui, mais aujourd'hui, l'Italie a eu sa chance pendant 20 ans dans le tournoi, a eu l'opportunité de prouver qu'elle avait
construit.
Sa place ici, dans cette compétition-là.
Contrat d'objectif.
Oui, mais aujourd'hui, le contrat, l'objectif, il est raté. C'est
ah
raté.
Oui, clairement.
20
ah
ans ouais, après, le rugby est sinistré, il n'y a pas un grand joueur, ils n'ont pas gagné depuis 6 ans, et 12 victoires en 20 ans, ouais. Je pense que n'importe quelle autre équipe dans le top 10 mondial aurait fait mieux.
Italie-France, match que vous pourrez suivre sur RMC ce samedi, coup d'envoi 15h15 avec toute l'équipe. Wilfried qui sera donc à Rome, lui il a été convié. Denis, tu seras avec moi toi.
Je serai avec toi.
En studio.
Je vois sa tronche.
Oh là là, oui, tu l'imagines très très bien, tu la vois.
Ça fait une semaine qu'il m'envoie des SMS, tu y vas? Non, moi non plus.
Et tu vas, Manu?
Non, je suis avec toi, Denis.
Oh là 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 là. Pas de spaghetti, pas de ravioli, pas de gnocchi, pas de pizza.
Couvre-feu à 22h, donc ça va pas.
Tu vas bouffer les
l'année prochaine.
Y aller. Je pense que vaut mieux pas y aller, Denis.
Voilà, les fauves resteront en cage ce week-end. Après les fauves, voici le frelon.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Le titre de frelon de la semaine, nous l'avons attribué à un illustre inconnu du top 14, un jeune ailier de 20 ans qui a crevé l'écran et la défense clermontoise ce week-end. Ce garçon, c'est Nathanaël Hüller, remplaçant à l'UBB, que même Nicolas Paolorsi ne connaissait pas. Salut
pas
Nico.
Salut les gars, salut à tous.
Tu le connaissais ou non?
Bah, je le connaissais parce qu'on sait qu'il est arrivé. Il est arrivé cet été. Oui, maintenant c'est vrai qu'il avait très peu joué. C'était sa troisième feuille de match seulement ce week-end. Donc voilà, c'est pas un joueur majeur. Hein.
Pas un joueur majeur, mais alors il a fait une entrée fracassante face à Clermont ce samedi. Hein.
Oui, bah alors déjà scénario de dingue, hein, scénario de fou à Clermont. Je vous refais un peu le contexte, mais 83e minute de jeu, 36-32 pour Clermont. Les avants de l'UBB qui pilonnent la ligne d'avantage. On va chercher les extérieurs et Hüller du coup s'envole. Il saute carrément par-dessus son défenseur. Il arrive à aplatir. C'est un geste assez fou. Sauf que l'essai est refusé puisque Ben Lam avait mis le pied en touche. On se dit alors que c'est fini pour Bordeaux. Il y a plus 4 pour Clermont, mais pas du tout. 88e minute, 8 minutes de temps additionnel. Hüller est une nouvelle fois décalé sur l'aile, un contre un face à Raka le découpe, hein, il lui arrache un peu la tête, plaquage haut, et malgré tout ça, Nathanaël Hüller arrive à aplatir dans une position totalement acrobatique. Il a le corps qui est totalement projeté en touche, il est dos à la pelouse, et malgré ça, du bout des doigts, il aplatit. Deux gestes de très grande classe. Il a été très bon dans le match aussi, hein. Il a franchi un sacré nombre de fois lorsqu'il est entré en jeu, il a breaké la défense de Clermont. Alors tu le disais, on le connaît pas, on le connaît très peu, cette saison 3 feuilles de match, en plus il s'était loupé sur ses deux premières rencontres. Il est savoyard, il a 20 ans, il a explosé en Pro D2 la saison passée avec Grenoble, 5 matchs pour 4 essais. C'est un joueur de l'équipe de France des moins de 20 ans et beaucoup de clubs étaient sur lui cet été. Il a choisi Bordeaux. Urios dit qu'il n'est pas encore prêt physiquement, rugbystiquement. Le deal c'était de le préparer pour la saison prochaine, mais il y a énormément de blessés à Bordeaux ou de joueurs qui sont en sélection. Du coup il était sur le banc à Clermont et c'est vrai que Christophe Furios a dit qu'il avait un peu rebattu les cartes parce qu'il a été vraiment impressionnant, il a des qualités de vitesse, d'appui, ça a encore un gros potentiel pour notre rugby français derrière, il a une marge de progression énorme et il a surtout réussi à faire gagner Bordeaux dans un match qui va compter en fin de saison quand on fera les calculs.
Voilà, Urios qui, avec son sourire goguenard, a dit bah, on a sans doute loupé des trucs à l'entraînement.
Heureusement qu'il n'est pas prêt, hein, le garçon.
Ouais, parce qu'il a quand même été énorme. Le jeune funambule, donc symbole d'une équipe girondine qui revient sur le devant de la scène, 4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matchs. Et une place de quatrième au classement. Ils sont de retour, les Bordelais. Ça y est.
Ils sont
Denis,
de retour.
Hein.
Ouais, ils sont de retour avec un jeu plaisant. Avec même Jalibert jouait pas, mais il y a
Botica. Ah, il manquait Jalibert. Il manquait
Botica, qui est un super joueur, l'a remplacé brillamment. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique avec des avants performants. Avoir compté sur eux comme l'an passé, mais là ils sont bien revenus.
Une équipe, Manu, qui avait été un peu frustrée par la saison terminée en eau de boudin, qui a eu du mal à s'en remettre, mais là on les sent aussi performants qu'ils l'étaient l'année dernière. Hein.
Attention, ils sont quatrième avec 16 matchs, tout le monde compte des matchs en retard. Ils sont à 43 points, ils sont revenus dans la course à la qualif. Clermont qui est sixième à 41 points et un match en retard. Ça va être très 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 serré jusqu'au bout. En revanche, Je dis ça, c'est pas pour les critiquer. Ils ont fait deux super fins de match. Et cette équipe, elle est complètement dingue. Les fins de match, c'est son affaire. Quand Urios, la semaine dernière, dit « Ça fait 35 ans que le top 14 se joue dans les dernières secondes », il sait très bien ce qu'il fait. Et il a une équipe de morte de faim.
D'un point.
Ouais, c'est ça. D'un point, c'est ça. Donc là, tu peux considérer que finalement, ils sont en train de se forger un caractère pour la fin de saison, et il va falloir évidemment
c'est
compter avec.
Là, Manu, c'est le parfait négatif de Montpellier en quelque sorte.
Ouais, ouais, c'est l'hiver, ouais. Exactement. Puis l'année dernière,
et puis ça joue. Ça joue Manu, hein. C'est la troisième attaque du top 14. Là, je regardais sur les cinq derniers matchs. Donc, les cinq derniers matchs, c'est 37 points à Clermont, 33 au Racing, 31 contre Lyon à la maison, 31 contre Toulon à domicile. Ça joue.
Urios fait un bras d'honneur à tous ces détracteurs qui disaient que c'est avec lui, c'était des équipes de merde. Putain, on voit du beau rugby. Ça joue dans tous les sens.
Comme l'année dernière.
Exactement. La semaine dernière, on disait, attention, ils ont matché au Racing. Il y a tout pour eux. Le terrain, les conditions et tout. Là, c'était à Clermont dans des conditions dantesques.
Quand tu dis bras d'honneur, je pense qu'il se ferait un grand plaisir parce qu'il a souvent été critiqué là-dessus avec Castres, d'avoir ce jeu monolithique, chiant, mais qui a qu'à gagner. D'arriver à gagner avec une autre forme de jeu.
Tu lui as assez reproché, toi, Wilfried. T'as pas été de maman avec Urios quand même.
C'est faux parce que moi j'en ai marre des.
Non, mais il me l'a révélé un jour.
Il n'y a pas qu'un rugby, quoi. Et si certains gagnent avec leur qualité, tirent la quintessence de leur effectif avec des chandelles, c'est peut-être plus chiant. Mais
un jour, il m'a dit Tom Wilfried, il va falloir l'arrêter un peu, Tom Wilfried.
En tout cas, il en parle souvent de ça. Et c'est vrai que dès qu'il est arrivé, il a dit non, mais à Bordeaux, je vais mettre un style de jeu différent qui correspond plus à la ville, et c'est vrai que c'est quelque chose qui lui tient à cœur.
Mais c'est sa force, il s'adapte.
Il le disait déjà avant de partir de Castres, qu'il avait signé pour Bordeaux. Il nous l'avait glissé, ça.
Mais il a fait la même chose à Bourgoin. Il a appris ça à Bourgoin. Il s'est adapté à Oyonnax. Il a fait la même chose à Castres. Il joue à chaque fois sur les points forts de son collectif et aussi sur l'identité du groupe et de la région.
Et chapeau à lui parce qu'il fait l'unanimité dans son club, au niveau des joueurs, du président, de tout le monde.
Unanimité, t'en connais qui font l'unanimité, toi ?
Non, pourquoi ?
À part Denis Charvet.
Non, mais c'est beau.
Les Bordelais qui seront en vacances le week-end prochain.
Ça ne pas, mais pour l'instant, il fait l'unanimité.
Des vraies vacances, Nicolas. Donc, du coup, Nicolas Paolorsi sera aussi en vacances, lui.
Eh ben non, parce qu'il a le foot, les gars. On ne se repose jamais.
Les Girondins.
Merci, Nicolas.
C'est sport, Christophe.
Salut, les gars.
À bientôt. Si Hulle est le roi du grand côté, pour finir, nous, on va plutôt aller dans le fermé.
RMC, entre les poteaux, côté fermé.
On évoquait il y a un instant le parcours de l'UBB Bordeaux, où un certain Louis Picamol va donc poursuivre sa carrière la saison prochaine. Wilfried, à 35 ans, Picamol, dont les prestations n'ont pas convaincu Altrad pour une prolongation de contrat à Montpellier, il va donc tenter de rebondir à Bordeaux. Paris étonnant quand même de la part des dirigeants bordelais, non ?
Ouais, ça dépend si on peut retrouver le Picamol de 2018 qui avait amené Montpellier jusqu'en finale. T'as raison, hein, 35 ans au moment où il revient d'une rupture où il n'est plus titulaire au MHR, c'est un sacré pari. Alors Picamol va croiser Marco Tolaigne, hein, hôte numéro 8 de l'UBB qui 27 ans fait le chemin inverse et part à Montpellier. Il va amener en tout cas l'expérience de ses 82 sélections, c'est plutôt rare dans un CV, et surtout pour lui pouvoir se relancer dans un dernier challenge. Mais c'est vrai qu'il sera très attendu en Gironde sur ses performances. On lui souhaite de faire les mêmes que le troisième in-cent australien actuel à l'UBB, Scott Higginbotham, qui a 35 ans, qui va quitter l'UBB. L'équipe parlait dernièrement du recrutement de Bastien Verne, le jeune troisième in de 23 ans en provenance de Colomiers. Mais bon, pour conclure sur Picamol, les plus anciens n'ont jamais fait peur à Urios. Quand il gagne le bouclier de Brennus avec Castres en 2018, la moyenne d'âge de l'équipe était très élevée, autour des 30 ans. Donc, il se lance dans ce pari Picamol. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Moi, j'en pense qu'il y a que Urios qui peut s'en occuper.
Ouais, peut-être. Et c'est ce qu'il fait. Pour l'instant, ça nous laisse dubitatif, quand même.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'il avance plus beaucoup, Louis. Hein.
Et après, il va le gérer. C'est une saison, ça se gère. Et
non, mais il en fait pas son numéro 1.
Oui, c'est ça. Il en fera son numéro 2. Et
Il lui reste un numéro 1 à trouver.
Ouais, je pense qu'il va y avoir un choix à faire et il va pas partir tout seul avec Louis Picamol.
Non, ils vont mieux pas.
Ouais. Très bien, nous verrons ça. La chasse aux infos, évidemment, continue entre RMC, Midi Olympique et les
pour
autres.
Pour l'instant, la bouffe, c'est sur les frais de Midol. Hein.
Ouais, je paye la première tournée, mais l'Andry perd la deuxième.
T'as qu'à payer la tournée en Italie ce week-end, il n'y a personne mais que Wilfried. Ça va pas coûter bien cher dans la chambre d'hôtel. Merci les garçons, bonne semaine. Bon séjour en Italie, mon petit Wilfried. Tu seras le seul, tu vas nous raconter un peu.
Ça va très vite, 48 heures, pam pam.
48 heures, c'est très bien, ça te va autrement. 72 heures, on répond plus de tout.
toi, tu vas me manquer.
Ouais, oui. Toi aussi, tu vas me manquer.
Oh, mais il est triste. Oh, tu vois, il a la tête qui fait, on dirait Droupi, le
pauvre. Oh, les pauvres. Surtout dans cette période, t'as qu'une envie, c'est de partir de loin, très loin.
Merci les garçons. Bon week-end, bon match, donc samedi.
Ciao, ciao.
Italie-France. Ciao, ciao, la semaine prochaine.